Et maintenant, c'est avec plaisir qu'on accueille François Mulet, qui n'a pas qu'une casquette. En fait, il en a trois. Il a une casquette d'organisateur avec Gilles et moi de cette conférence, une casquette d'agriculteur maraîcher en Haute-Normandie, et aussi, troisième casquette, de quelqu'un qui aime beaucoup penser à comment est-ce qu'on optimise la mécanisation du paillage, comment est-ce qu'on optimise des tas de choses. Et voilà, il va partager un petit peu de tout ça avec vous et de son cheminement dans ce domaine-là. Merci François.
Donc bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter donc une partie du travail qu'on fait sur notre exploitation. Donc là, je vais me concentrer sur tout ce qui est mécanisation des paillages, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on a fait un gros travail et qu'on a un résultat qui est relativement intéressant. On a commencé notre réflexion sur le maraîchage sans travail du sol il y a 5-6 ans. On a beaucoup travaillé à la main, d'une manière amateur. Et j'ai mis au point des outils, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait démarrer notre système. Et donc ça a été ça en fait la grosse question, c'est comment on démarre le système, comment on fait pour se débarrasser d'une prairie, comment on fait pour se débarrasser d'un couvert, comment on fait pour maintenir propres les cultures. Et donc voilà, ça a été la problématique de départ, c'est comment on démarre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'outils disponibles. À l'époque, on ne les avait pas encore tout à fait vus. Donc, la grosse problématique, c'est l'enherbement. Pour nous, c'était vraiment ça le point clé. C'était comment on va gérer notre enherbement. C'était la chose qui nous faisait la plus peur. Bon, on a vu ce matin que c'était peut-être pas si grave que ça. Bon, mais nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et au final, c'est vrai qu'avec la problématique du carbone, on se rend compte que y a quelque chose à faire avec l'enherbement. C'est pas si grave que ça. Il va falloir essayer de le gérer. Et, voilà. Bon, mais nous, on a développé quelque chose de systématique. Quoi. C'est-à-dire, on s'est dit, on veut pas d'enherbement. Comment on fait ? Donc, dans les outils, il y a le travail superficiel du sol qui reste assez efficace quand même pour débarrasser les mauvaises herbes. On a quelques collègues qui, a priori, ont déjà des systèmes relativement au point là-dessus. Donc, on va dire que c'est des systèmes plus style TCS. Il y a les systèmes de bâches d'ensilage, donc les couverts opaques qui permettent de détruire les mauvaises herbes ou les couverts végétaux ou les cultures qui ne seraient pas complètement mortes. Les couverts végétaux qui, en exerçant une concurrence quand même assez importante sur les mauvaises herbes, limitent ces mauvaises herbes, mais qui n'ont pas toujours un effet désherbage total, quoi, loin de là. Et qui des fois pose des problèmes parce qu'il faut s'en débarrasser aussi. Et après, il y avait les paillages. Alors nous, les paillages, c'était quelque chose qui nous intéressait parce qu'on est une région de céréales, on a nous-mêmes de la céréale en conventionnel, et donc c'est un outil qu'on a vraiment favorisé dans notre système et qu'on a beaucoup développé. Donc un paillage, le paillage, on l'a beaucoup utilisé, on a fait beaucoup d'essais, et au final, en analysant, il en est ressorti un certain nombre de choses. Le paillage, c'est avant tout un isolant, donc c'est quelque chose qui isole le sol. Alors ça a des aspects assez positifs, d'autres moins. C'est positif, ça isole, donc ça garde l'eau, ça oblitère la lumière, donc les petites graines qui germent, ça empêche une certaine partie de germer, notamment dans les adventices. Ça garde l'humidité, ça stabilise la température. Alors la stabilisation de la température, c'est pas forcément très intéressant, des fois on aimerait que le sol se réchauffe. Mais l'été, en même temps, ça évite qu'il surchauffe. Donc c'est vraiment un effet d'isolant à tous les niveaux. Et ça neutralise la germination des adventices de plusieurs manières. Donc d'abord avec l'oblitération de la lumière. Et aussi parce qu'en fait, en stabilisant les conditions à la surface du sol, les graines d'adventices ne germent pas. Parce que en fait, les graines d'adventices, elles sont dans le sol et très souvent elles germent parce qu'il y a une fluctuation de l'environnement, une modification de l'environnement. Il y a plus de lumière, il y a plus de chaleur, il se met à faire plus froid, plus chaud, plus humide. Et donc c'est des variations assez rapides, et c'est là que les graines sortent de leur dormance et se mettent à germer. Et comme le paillage lui stabilise les conditions, en fait on se rend compte que avec le même stock de graines, il suffit d'avoir un petit paillage et en fait ça ne germe pas. Donc c'est un effet quand même assez très très visible, quoi. On élimine peut-être entre 80-90% la germination des adventices. Le paillage, ça amène de la manure organique. C'est pas négligeable, ça amène des limaces, c'est un peu un problème. Et donc, comme je disais, ça stabilise la température du sol. Un des problèmes du paillage, c'est que donc ça ne fait pas de désherbage total. Quand on a une parcelle assez sale et qu'on la paille, très généralement, il reste toujours des choses qui retraversent le paillage. Donc, en fait, on n'a pas un effet désherbage total. Donc nous, c'était une de nos problématiques. Comment on fait pour améliorer ça? Donc on a inventé un truc qu'on a appelé le relevage des paillages. Bon, alors c'est un néologisme, on peut peut-être trouver mieux. Donc le problème qu'on a dans nos paillages, c'est que l'herbe donc repousse à travers les paillages, toutes celles qui restent quelques réserves nutritives, et repousse à travers les paillages. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est en fait de relever la paille, c'est-à-dire qu'au début je le faisais à la main, quoi. Je prends la paille, je la soulève et je la remets sur les pousses d'herbe qui sont en train de travailler, de traverser la paille. Donc il faut le faire assez régulièrement, de manière à épuiser les adventices qui traversent la paille. Donc cette année, on a réussi à mécaniser le système. On a donc fait des essais un peu sur des grandes surfaces et ça marche relativement bien. Et donc on a vu qu'entre 3 et 4 passages de notre outil, à 10-15 jours d'intervalle, on relevait les paillages, on redéposait les paillages, et au final, on arrivait à épuiser toutes les réserves nutritives des adventices, et il restait quasiment plus rien. Donc on a quelques plantes particulièrement résistantes, chardon, rumex, chien-dent, c'est ce qu'on a chez nous, il y en aura sans doute d'autres dans d'autres régions, mais nous c'est vraiment ça qu'on a noté, parce que c'est des plantes qui ont des réserves nutritives plus importantes que les autres, quoi. Donc tout ce qui est annuel, généralement, ça survit pas à ça. Donc au début on faisait les essais à la main, on a vu qu'on a commencé à avoir des résultats. Le problème c'est que c'est quand même très très long de remanier toute la paille à la main systématiquement, donc c'était une technique pour nous qui pouvait fonctionner que si elle était mécanisée. De toute façon nous on est aussi dans une démarche de mécanisation, c'est notre logique, quoi. On a envie de pas trop se fatiguer. Voilà. Donc ça donne ça. Donc là il y avait un couvert assez sale, donc c'était, on avait semé des choses, mais il y avait aussi beaucoup d'adventices, enfin, c'était quand même bien crado, de l'automne dernier, enfin pas 2012, 2011, quoi. Et au printemps, au mois d'avril, on est arrivé, on a épandu de la paille, et on a passé donc 4 fois notre faneur qui nous sert à relever la paille, et donc voilà, on obtient ça. Alors là, c'est peut-être un mois après le dernier passage de faneur, ce qui fait qu'il y a quand même quelques herbes qui ont eu le temps de repousser et de se redévelopper, celles qui n'étaient pas complètement mortes, quoi. Mais disons que là, on était quand même parti d'un couvert très très sale, et pour un maraîcher, quand on voit ça, on se dit que voilà, là, en une heure ou deux, on a fini de nettoyer, et puis après, on est tranquille, quoi. Donc on était assez contents du résultat. Ensuite, au mois d'avril, on a broyé, paillé, fané 3-4 fois, et ensuite, on est venu directement repiquer des choux dedans, quoi, tout simplement, un P17 par-dessus, et voilà, donc la culture s'est développée tout à fait correctement, là on a eu un résultat qui était quand même tout à fait correct, sachant que ça c'est un sol qui était cultivé en conventionnel, labour systématique, et que donc était quand même en très mauvais état, qu'on a remis en route avec un BRF et puis un an de couvert, avec pas mal de mauvaises herbes, parce que bon, comme on débutait dans la gestion des couverts, on savait pas vraiment gérer ça, donc il y avait beaucoup de cochonneries. Et donc, malgré tout, voilà, le sol est un peu remis en vie, et avec notre système de paillage, bah, on a réussi à mener une culture d'un bout à l'autre, et elle a été quand même relativement productive, enfin même assez productive. Donc, l'avantage de ce système, donc c'est qu'on arrive à nettoyer n'importe quel couvert ou une prairie ou quelque chose comme ça. Enfin, on n'a pas encore essayé réellement sur des prairies pleines de chiens dents ou des choses comme ça. On ne sait pas trop ce que ça donne. Je pense qu'il faudrait faire un nombre de passages plus important pour réussir à nettoyer, parce qu'on a des plantes vivaces avec beaucoup plus de réserves nutritives. Donc voilà, on arrive à nettoyer nos parcelles en 30-45 jours. Bon, si vraiment on a un couvert qu'on a réussi à maîtriser dans lequel il n'y a que des plantes annuelles assez faciles à détruire, ça peut aller beaucoup plus vite, quoi. Il y aura besoin d'un passage peut-être, quoi. À chaque passage qu'on fait avec le faneur qui nous permet de relever la paille, ça fait un faux semis. Ça, c'est un effet qu'on a observé. C'est-à-dire que comme on remue quand même et qu'on modifie les conditions en surface du sol, on voit par exemple les facélies. Dans le couvert, on avait des facélies qui étaient montées à graines. Sous le paillage, on voit toutes les facélies qui germent. Mais comme on passe un coup de faneur, hop, ça déglingue tout le monde. Et donc, ça nous fait 2, 3, 4 faux semis. Et alors c'est important aussi, c'est de faire un faux semis sur le blé qu'il y a dans la paille. Ça c'est important parce que c'est une grosse problématique qu'on a avec les paillages, c'est qu'on met de la paille et puis bon, on se retrouve avec un couvert de blé et puis voilà. Donc ça il faut quand même le gérer parce qu'on amène des mauvaises herbes au fait en faisant le paillage. Donc Nous, on hésitait entre. Enfin, aujourd'hui, on hésite un peu. Enfin, on a deux outils. On se pose la question de savoir quand est-ce qu'on utilise lequel. Donc, c'est l'abage d'ensilage qui permet d'oblitérer la lumière et quand même de très bien nettoyer les cultures. Et donc, voilà, on compare un peu les deux. Le paillage, donc, c'est un peu plus long à mettre en place. La manière dont on le fait, donc, faut du matériel. Il faut aussi surveiller, c'est-à-dire qu'il faut venir voir quand est-ce qu'on fait des passages, etc. Alors que bon, la bâche, on la met et puis après on revient 15 jours après, de temps en temps on soulève et puis une fois que c'est mort, c'est mort. Par contre, voilà, nous avec notre système, on l'a entièrement mécanisé. Donc on. Je ne sais pas, au niveau du paillage, on pourrait presque faire à 2 un hectare dans la journée et puis un relevage, ça prend, je ne sais pas, 3-4 heures pour faire relever un hectare. Quoi. C'est quand même des temps de travail assez courts et surtout on fait des grosses surfaces. Quoi. Un des problèmes de système, donc, c'est qu'il est très consommateur de paille. Voilà, nous, on est parti là-dessus, on a beaucoup de paille, on part sur ce système-là. Après, on voit qu'on n'est pas du tout cohérent au niveau du carbone. C'est-à-dire, voilà, on importe énormément de carbone. Donc, notre idée, c'est d'utiliser ça en tête de rotation. On se rend compte qu'une fois qu'on a fait un bon paillage, qu'on a réussi à nettoyer nos cultures avec, en faisant des semis, des repiquages, avec un petit peu de débris de culture... on pourrait garder la parcelle peut-être pendant 2 ans sans refaire d'apport de paille. Quoi. Et si en plus on arrive à intégrer des couverts végétaux dedans, voilà, bon, on pourrait rallonger le truc. Voilà. Donc nous, ça nous sert de tête de rotation, on part là-dessus, et puis ensuite, on va voir comment on s'oriente, comment on intègre les couverts, comment on arrive à complexifier notre rotation pour essayer d'être plus cohérent au niveau du carbone. Mais bon, pour l'instant, c'est un bon outil qui nous permet de démarrer. Le paillage, c'est comme la bâche d'ensilage, c'est pas très efficace l'hiver, les plantes sont en dormance, donc c'est quelque chose qu'il faut faire principalement au printemps, l'été, à l'automne, mais voilà, dès que même à l'automne il commence à faire froid, c'est quand même beaucoup plus lent, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc c'est un truc qu'il faut faire quand les plantes poussent. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, donc la paille nourrit la vie du sol mais ne remplace pas l'effet de décompaction des systèmes racinaires. Ça, c'est quelque chose de très important. Très important, c'est-à-dire que dans le sol la parcelle qu'on avait récupérée, là, qui était en conventionnel, la première année, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre de la paille, et puis on va essayer de cultiver comme ça. Et bah, le problème, c'est que le sol, il s'est très bien compacté, il est bien mort, et après, on a eu du charbon, et puis c'est tout. Quoi. Et on est encore en train d'en payer le prix, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un paillage, ça ne remplaçait pas l'effet de décompaction des systèmes racinaires, et que c'est vraiment très très important. Quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin de carbone en surface pour protéger le sol, mais on a besoin de systèmes racinaires pour décompacter. Si on n'a pas les deux, ça ne fonctionnera pas, on n'arrivera à rien. Quoi. C'est vraiment un truc indispensable. Quoi. Et c'est pour ça que le paillage, c'est un outil qui permet de désherber, mais il faut faire très attention au sol, vraiment, à sa décompaction. Quoi. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on intègre beaucoup plus de couverts végétaux dans notre système. Donc le matériel lui-même, bon bah ça c'est tout à fait classique, hein. C'est un Roundballer, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors c'est un RC121, alors j'ai choisi ce modèle, alors en fait moi comment j'achète le matériel, c'est le matin en déjeunant, je fais le bon coin à gris à fer tous les matins, et puis si je vois un bon truc j'appelle, et puis l'après-midi j'y suis parce qu'il ne faut pas laisser passer les occasions. Et, mais aussi voilà, le fait de regarder les petites annonces tous les jours, on voit tout le parc de matériel qui existe, et ça fait quand même beaucoup réfléchir sur ah ben ça c'est gros, ça c'est petit, ça me fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça, et donc ça développe l'imaginaire, et puis au bout d'un moment bon, on arrive à faire des choix, et parce que de toute façon le matériel c'est toujours un compromis quoi, il n'y a pas un matériel idéal qui fait exactement ce qu'on veut, donc à un moment donné c'était toujours un compromis technique, donc il faut essayer de voir tout ce qui existe comme matériel et puis à un moment donné dire bon alors ça c'est pas trop cher, c'est pas trop lourd, je vais réussir à l'utiliser, ça a pas l'air trop compliqué, si le marché de l'occasion est important c'est pas mal parce qu'on va trouver des pièces détachées et souvent c'est pas très cher. Donc voilà, ça c'est un Roundballer tout à fait classique qui était très très utilisé chez les éleveurs, comme chez nous les fermes d'élevage ferment les unes après les autres, et ben il y en a plein, c'est pas cher. Donc ça, pour l'utiliser, on emprunte un tracteur, parce que nous, on a 35 et 45 chevaux. Là, il faut quand même commencer à avoir un bon gros tracteur, même si c'est pas si lourd que ça, mais c'est mieux. Donc, alors, pour le paillage, donc on s'est orienté vers le roundball, et pas le petit ballot ou le gros ballot haute densité, parce que le matériel est moins cher. Et puis aussi parce que la balle ronde, on peut la faire à la main, quoi. C'est aussi le gros avantage, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être complètement dépendant de la technique. Le jour où on a une petite surface à faire, on prend le round-ball, on le déroule et on peut encore le faire à la main, quoi. Alors que si on achète des balles de 500 kg, là on est obligé d'avoir un tracteur pour le déplacer, pour tout faire, quoi. Donc c'était un des choix pour le round-baller. Et puis bah, les round-ballers, ça vaut vraiment pas très cher. Donc c'était quand même l'intérêt. Donc la basse densité nécessite peu de puissance aussi, ça c'était dans mon choix, c'était ça. C'est assez important, c'est que les hautes densités qu'on utilise pour faire des grosses balles carrées, ça sert pour le transport et c'est très coûteux en énergie. Nous, vu que notre paille, on va la chercher dans l'échange juste à côté, on n'a pas besoin de compresser la paille, ben, voilà, c'était pas la peine, quoi. On aurait dépensé de l'énergie pour rien. Donc on est resté sur le round ball. On a eu quelques soucis parce qu'aujourd'hui chez nous ils ont des moissonneuses à 250 000 euros qui font des tailles pas possibles et mon vieux roundballeur il avait du mal à manger l'andin de paille laissé par la machine parce que il était pas conçu pour. Donc ça voilà, il faut réussir à dimensionner tout l'outillage, quoi. C'est-à-dire que ça c'est des problématiques de dimensionnement. Donc ça c'est la paille qu'on a produite cette année, il y a je sais plus 250 balles. Donc on a ramassé la paille sur 8 hectares. Donc là, on voit quand même le problème d'importation du carbone d'un autre écosystème qui est assez flagrant. Voilà, ça c'est donc, une fois qu'on a fait nos balles rondes, il faut les pendre. J'ai mis du temps à trouver cette machine, j'ai mis du temps à me décider. Et parce qu'en fait, dans toutes les pailleuses qui existent, il y a vraiment beaucoup de modèles différents, beaucoup de systèmes techniques assez différents. Et au final, je me suis arrêté là-dessus parce que c'était vraiment la chose la plus simple, qui consommait le moins d'énergie. C'est quasiment increvable, c'est que des pompes hydrauliques, c'est très très robuste. Donc ça s'appelle une dérouleuse pailleuse. Les éleveurs utilisent ça pour pailler les stabulations. Alors, à l'origine, l'attelage était sur la face qu'on voit là devant. Et comme moi, j'avais envie de pailler derrière, j'ai changé la position de l'attelage. Sauf qu'à la place de l'attelage actuel, il y avait un bras de chargement des balles, qui pesait fort lourd d'ailleurs, donc je l'ai retiré, déjà ça allégeait la machine. Et ensuite, il faut qu'on charge avec un autre tracteur, en fait, avec ceci. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple. Ça m'a pris 2-3 heures à bricoler ça, j'ai été acheter deux dents de pic-ballot, puis voilà. Donc sur un petit tracteur, on a cet outil-là, sur l'auto, on a la pailleuse. Et on y va, quoi. On étale de la paille et c'est parti. Donc voilà, il y a beaucoup de modèles. Donc on arrive à l'utiliser avec 45 chevaux. Donc c'est un petit Massey Ferguson, c'est quand même un tout petit tracteur, quoi. Et donc voilà, avec 45 chevaux, on peut mécaniser les paillages. Voilà. Oui, on a fait une bidouille sur le tracteur parce qu'en fait, c'est des. Une pailleuse comme ça, il faut une prise hydraulique à pompage continu, quoi, qui soit indépendante du relevage. Et donc, il a fallu que j'installe un distributeur. Bon, mais il y a un ferrailleur pas cher, pas loin de chez moi, donc au final, ça coûte pas très cher. C'est un peu de temps de travail. Alors, ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'on arrive quand même, au final, à avoir un paillage qui est étalé d'une manière très uniforme, quoi. On a vraiment un truc où il y a très très peu d'intervention à la main après. Une fois qu'on est passé, voilà, c'est paillé, on en met 10-15 cm, on choisit. En fonction de la vitesse. Donc, si on accélère avec le tracteur, on en met un peu moins. Si on roule plus doucement, on en met un peu plus. Et comme la paille, elle est projetée à l'arrière, eh ben, en fait, cette projection étale la paille. Et donc, si tout d'un coup, il y a un peu de paille en excès, je veux dire, qui arrive dans l'éparpilleur, eh ben, elle est étalée. Et donc, au final, on a vraiment un truc très, très homogène, très propre. Et bon, comme on est deux, il y en a souvent un derrière qui revient avec une fourche pour bricoler un peu, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, quoi. C'est très rapide, très efficace. Et donc, bon, il nous faut un deuxième tracteur pour charger les ballots dans la pailleuse. Donc ça, c'est le troisième outil que j'ai bricolé pour les paillages. Donc ça, c'est un agriculteur du Gers qui m'a donné l'idée. Et quand je suis venu l'an dernier ici en formation avec Conrad, je discutais avec des éleveurs et... J'ai exposé ma problématique et il y en a un qui m'a dit « Il te faut un aérofaneur Gustin ». Bon, j'ai fait « D'accord, c'est quoi ?» Donc le bon coin, j'ai été sur le bon coin et j'ai trouvé ça, ce que c'était un aérofaneur Gustin. C'est cette chose. Alors là, il est un peu trafiqué. Normalement, il y a des roues à l'arrière, je les ai retirées. Normalement, c'est pas un troisième point comme ça à l'avant, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle ça. on met ça sur une barre à trous, là. Enfin, c'est pas cette forme-là. Donc là, j'ai refait l'attelage à l'avant. Je l'ai découpé en deux et je l'ai réduit à la largeur de mes planches. Et voilà, bon, alors j'ai aussi rajouté une modif là, qui n'est pas sur la photo, c'est que j'ai remis des planches pour rabattre la paille, parce que sinon ça avait tendance à étaler la paille sur les côtés, alors que moi je veux la concentrer un peu au milieu sur ma planche, quoi, pour pas qu'elle aille s'étaler partout. Donc voilà, alors le principe est vraiment bête à bouffer du foin, c'est bien, c'est un faneur. C'est on a un rotor avec des dents-ressorts, donc on passe ça, ça prend la paille devant, ça la remet derrière, et au passage, on re-enfouit toutes les herbes sous la paille. Donc au niveau puissance, c'est assez ridicule. Là, on aurait besoin de, je sais pas, 10-15 chevaux, quoi. Y a un truc qui marche pas très bien, c'est qu'en fait, je suis en 3 points portés, et donc de temps en temps, si dans mes passe-pieds, j'ai un creux ou quoi, ça a tendance à fortement gratter le sol. Et donc, en fait, il faudrait que je mette 2 roues derrière pour que le faneur il suive bien le profil du sol, quoi. Et que je mette un 3e point flottant à l'avant. Bon, alors j'arrive à l'utiliser comme ça, mais c'est vrai que des fois, ça gratte bien le sol et puis ça fait patiner un peu la courroie. Donc là, pour cette année, je vais essayer de modifier ça. Et voilà. Donc, le truc, c'est que c'est fait pour faner du foin. Donc, on a un grand rotor qui a cette hauteur-là à peu près, le rotor avec les dents, tout ça. Et je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin d'un rotor aussi important. À mon avis, avec un rotor beaucoup plus petit et donc une machine beaucoup moins imposante, on arriverait à faire le même travail, quoi. Bon, là, l'intérêt, c'est que je l'ai acheté 200 €. Enfin, ça ne coûte rien, c'est déjà tout fait. Bon, je l'ai un peu bricolé, mais disons que si on voulait vraiment créer un outil spécifique, on n'aurait peut-être pas un rotor de cette forme-là. Il faudrait peut-être quelque chose de plus petit. Et puis aussi, en fait, là, ce que ça, au niveau du travail, en fait, ça prend la paille et ça la projette quand même 2 mètres derrière. Ce qui n'est absolument pas nécessaire, en fait. Moi, ce que j'ai juste envie, c'est que ça la soulève et que ça la redépose, quoi. Donc, on n'a peut-être pas besoin de toute cette ferraille. On pourrait simplifier, quoi. Voilà. Donc, très faible coût, très peu de puissance. Donc, comme je disais, il faut que je le mette en semi-portée avec 2 roues qui suivent le profil, un 3e point. Donc, on peut peut-être faire mieux. C'est-à-dire que le concept n'est peut-être pas vraiment idéal. On peut trouver quelque chose de plus simple. On s'en sert, effectivement, pour semer les couverts en fin de culture, parce qu'on essaie de développer ça quand même, pour être un peu plus autonome au niveau carbone. Tout simplement, c'est que dans les paillages, dans les résidus de culture, on sème les graines à la volée en surface, et on passe un coup de faneur, donc ça mélange les graines, tout ça, et puis ça germe, quoi. Donc pareil, c'est très rapide, ça permet de semer les couverts à la volée très rapidement. Bon, en termes de temps de travail, c'est vraiment assez ridicule. Alors, une fois qu'on a nos paillages, comme je vous ai montré sur la photo, on s'est posé la question comment on sème, comment on repique tout ce qu'on a repiqué et semé. Tout ce qui est grosses graines, bon, au final, on en fait assez peu. Mais bon, ça sème directement avec le paillage, quoi. L'important, c'est de réussir à retirer la paille au-dessus de la graine, qu'il n'y ait pas des brins de paille emmêlés au-dessus de la graine, sinon ça l'empêche de sortir, mais il n'y a pas besoin non plus d'écarter énormément. Donc le simple fait de descendre la graine à travers, en fait, ça pousse la paille et ça suffit largement, ça laisse un puits pour que la graine ressorte. Donc ça, c'est pour les grosses graines. Le repiquage, bon, on repique tout à la main. On achète beaucoup de mini-mottes, hop, on repique. C'est pas très compliqué. Et les petites graines, alors là, moi j'avais très peur, en fait, que sous la paille, on ait un lit de semences qui soit pas du tout... homogène, enfin qu'il soit avec des modes, des trous, tout un tas de trucs. Et donc en fait, l'idée ça a été d'amener le lit de semences avec la graine. Donc en fait, on écarte la paille et ensuite on prend les graines, on mélange avec du compost et dans le sillon où on a écarté la paille, on épand la graine avec le compost, quoi. Donc on amène le lit de semences. Dans le cas des carottes, par exemple, on fait pré-germer les graines. Comme ça, on gagne 10-15 jours sur la germination. Alors, l'avantage du compost, c'est que ça poursuit l'effet du paillage. C'est-à-dire qu'on retire la paille sur le sol, mais si on ne remet pas quelque chose, à l'endroit où on a retiré la paille, tout va se mettre à germer. Toutes les graines d'adventice, elles vont sortir parce que le microclimat au niveau du sol va se modifier. Alors que quand on remet une petite couche de compost, et ben ça poursuit l'effet du paillage, et ce qui fait qu'en fait, on a quasiment zéro germination. Donc on arrive à un système où on repique, on sème, et au final on a quasiment zéro désherbage une fois que la culture est implantée. Donc le souci qu'on a, c'est que pour l'instant on fait tout à la main, et qu'il va falloir que je travaille sur d'autres machines pour faire tout ça avec le tracteur et puis rester le cul sur le siège du tracteur. Donc voilà, bon, uniquement manuel, ça fonctionne, mais c'est long, il va falloir mécaniser. Donc j'ai déjà quelques pistes, mais comme c'est pas encore fait, on va pas en parler. Couvert sous serre, oui, bon, c'était une belle photo. Parce qu'en fait, ce système de paillage intégral, en fait, on l'avait d'abord développé sous serre. Alors sous serre, l'avantage, c'est comme il pleut pas et comme on n'arrose pas par aspersion, les paillages se décomposent beaucoup moins vite. Et donc, en fait, on garde un sol propre toute l'année, il n'y a quasiment aucune mauvaise herbe. La gestion des serres avec des paillages permanents, c'est vraiment très très facile. Quoi. On a de la paille partout, on sème, on repique, ça pousse, on retire, et puis ça produit, il faut arroser de temps en temps, puis c'est tout. Quoi. Il n'y a juste rien à faire. Quoi. C'est vraiment... Non mais bon, parce que je discutais avec un conseiller technique qui me disait « Ah, les paillages sous serre, c'est bien, je connaissais un mec qui faisait ça, tous les ans, il retirait les paillages, il les compostait, il les ramenait, tout ça, ça sert à rien. » En fait, voilà, bon. Et là, pareil, le couvert, on l'a implanté d'une manière très simple, c'est on a balancé les graines, on a remué au râteau la paille, parce qu'à l'époque, j'avais pas le faneur et tout ça, on a remué au râteau la paille, on a arrosé comme ça, et puis bon, ça a germé, ça a poussé, et puis voilà, quoi. Donc, ce qu'on a fait sous serre cette année, on a fait un essai. C'est comme on se disait, comme on travaille pas les sols, et qu'on a commencé à installer de l'irrigation dans les serres, on a enterré l'irrigation, en fait. On a enterré du goutte à goutte tous les 50 cm. En se disant, voilà, qu'on allait arroser par dessous, que donc ça allait pas mouiller les paillages. Que comme le goutte à goutte serait enterré, il serait protégé, on l'abîmerait pas trop. Et en fait, ça marche pas très très bien. Alors, ça marche quand on a une culture déjà bien développée, parce que les racines vont jusqu'au goutte à goutte chercher l'eau. Mais en fait, l'eau, elle a du mal à se diffuser dans le sol, quoi. Et en fait, elle fait une espèce de gaine comme ça autour du goutte à goutte, mais elle n'arrive pas à humidifier complètement le sol. Quoi. En fait, il faudrait en mettre beaucoup, beaucoup, le détremper pour que le niveau monte. Et donc là, on a construit une nouvelle serre. Au début, on envisageait de faire la même technique, mais on n'est pas convaincu. Mais bon, ça marche quand même à peu près. Mais il faudrait réfléchir, parce que c'est vrai que comme on travaille pas les sols, si on enterre l'irrigation, ça peut quand même être assez intéressant. Quoi. À condition de faire attention aussi quand on repique, parce que là, on a réussi à percer le goutte à goutte une fois en faisant du repiquage. Bon. Mais je reste convaincu que ça peut être une bonne idée, mais il va falloir mettre au point. Donc bah voilà ce que ça donne sous serre avec du paillage permanent. Donc, comme je vous disais, niveau désherbage, c'est quand même pas, c'est pas violent quoi. Il faut semer, piquer, et puis bon après on récolte. Et en plus ça pousse très très bien, c'est ça l'avantage, c'est qu'on a quand même des belles cultures. Donc ça, je suis tombé là-dessus sur Le Bon Coin ou AgriFR, je sais plus. C'est un ancien tasse à vent de marque Bonnel qui fait 1m40 de large, donc la largeur de nos planches. Et donc c'était un tasse à vent et bah, en fait c'est un rouleau FACA aussi. Quoi. Donc il faut mettre un peu de poids, il faut affûter. On a fait quelques essais, ça marche comme les rouleaux FACA quoi, à peu près. C'est-à-dire que les plantes qui sont sensibles à ce mode de destruction, bah, elles sont détruites et les autres moins. Mais voilà, bon, c'est juste pour dire, hein, c'est que si un jour vous croisez ça sur Le Bon Coin, ben voilà, ça fait vous pouvez chercher ça si vous cherchez un rouleau FACA, quoi. C'est déjà tout fait, ça vaut rien, c'est de l'occasion. Plutôt que ça parte à la ferraille, il faut aller le récupérer. Ça, c'est la première machine que j'ai bricolée. C'était il y a, je sais plus, 4-5 ans maintenant. Donc j'avais lu tous les livres sur le BRF, tout ça, je m'étais dit pourquoi pas moi, surtout que nous on a beaucoup de haies, beaucoup d'arbres fruitiers sur l'exploitation. Puis j'ai vu le prix des broyeurs, j'ai fait oulala, ça c'est pas pour mon porte-monnaie. Et j'avais entendu dire qu'un Canadien ou un Québécois, enfin c'est les Québécois sont Canadiens, utilisait une ensileuse à herbe ou à maïs, je sais plus, pour broyer des branches. Donc j'ai été voir mon mécanicien agricole local, je lui ai dit techniquement c'est quoi la différence entre une ensileuse et un broyeur. Il m'a dit bah non, ça doit être à peu près la même chose, le système d'avalage est pas le même, mais au niveau du volant broyeur c'est pareil. En plus tout est fait relativement costaud parce que c'est soumis à rude épreuve dans les champs. Donc voilà. Et comme nous on n'avait que 45 chevaux, ben, un jour je suis tombé sur une annonce où il y avait une ensileuse avec un moteur auxiliaire de 110 chevaux, donc là j'étais content. Donc voilà, ça, plutôt que ça parte à la ferraille, voilà, je l'ai recyclé en broyeur à branches. Donc j'ai installé une barre de sécurité quand même, parce que il y a un boîtier d'arrêt avance du pick-up, j'ai branché une barre de sécurité dessus. Le pick-up est pas tout à fait adapté, de temps en temps les branches se foutent un peu de traviole, tout ça, mais Au final, ça m'a coûté 1500 euros. Il y a 110 chevaux de puissance dessus, donc on peut en envoyer. Ça ne cale pas et ça mange de la branche. Quoi. Donc j'étais plutôt content de mon affaire. Et disons qu'il y a beaucoup d'ensileuses qui peuvent servir de broyeur à branche. Hein. C'est vraiment du matériel robuste. On met une branche dedans. Faut peut-être affûter plus souvent les couteaux, mais à partir du moment où le système d'avalage en fait est direct, il n'y a pas de souci. La branche est rente, elle est broyée et puis ça ressort. Et ça coûte. Le marché de l'occasion est énorme, donc ça coûtera beaucoup moins cher qu'un broyeur neuf. Quoi. Après, voilà, bon, faut pas exiger des débits de chantier gigantesques. Quoi. Donc bah voilà. Et voilà.
C'était ma petite blague.
Donc des questions.
Merci François, on a 10 minutes pour des questions.
Le goutte à goutte enterré sous serre, c'est à quelle profondeur?
On l'avait mis à une dizaine de centimètres, bon c'était un peu au jugé quoi, comme ça. On se disait qu'on voulait qu'il y ait assez épais pour qu'on marche dessus, ça tasse pas trop facilement. Après on se disait qu'il faut que ce soit le plus haut possible pour que l'eau apparaisse le plus haut possible dans le profil. Et puis après il y avait aussi la profondeur de repiquage, parce que quand on repique à la main, il fallait pas que les plantoirs aillent percer ça. Donc on s'est mis autour de 10 cm. Quoi. Malgré tout, on a réussi à le percer au plantoir. Mais après, bon, par contre, au début, on avait peur qu'en fait, la terre en fait, compacte le goutte à goutte et qu'il n'arrive pas à gonfler. Quoi. Et en fait, ça pose pas du tout de problème. Quoi. La pression dans le goutte à goutte est tout à fait suffisante pour réussir à ce qu'il se fasse sa place dans le sol. Quoi. Et une fois que sa place elle est formée, il n'y a pas de souci. Quoi. Non, le souci, c'est que l'eau elle a du mal à diffuser. Donc je sais pas comment faire, il faudra en mettre un tous les 10 cm ou trouver un système de... je sais pas. Mais c'est dommage parce que je trouve l'idée vraiment intéressante d'arroser dans le sol, mais j'ai pas encore trouvé.
Le goutteur du goutte à goutte, il se bouge pas?
Non, parce que ta pression elle est à l'intérieur et ça expulse l'eau, donc y a pas de raison. Quoi. Enfin pour l'instant on a rien vu de ce style-là. Bon.
Ça fait combien de ballots du coup à l'hectare?
Alors oui, question importante. En gros, on met, c'est un ordre d'idée, on va mettre entre 5 et 7 fois plus de paille qu'une culture de blé normale. Quoi. Bon, alors chez nous, on a des cultures de blé à 80-100 quintaux, donc ça en fait pas mal. Mais voilà, en gros, on en met 5-7 fois plus. Quoi. C'est-à-dire, si on veut couvrir un hectare de maraîchage, il faut prévoir 5 ou 7 hectares de grandes cultures en conventionnel, dont on va prendre le carbone. Et, voilà. Donc c'est pour ça quand même que on est très content de notre technique parce que vraiment ça nous permet de on en étale quoi et puis voilà et puis après on plante et puis donc on fait de la surface ça crache du légume mais on a vraiment un gros problème au niveau du carbone qu'il faut résoudre quoi. C'est...
Le problème au niveau du carbone ça se résout pas avec du foin plutôt que de la paille?
Alors du foin plutôt que de la paille le problème reste un peu le même, c'est qu'on importe le carbone d'un autre écosystème quoi. Bon donc et l'avantage de la paille, c'est que ça se décompose pas très vite. Bon, surtout que c'est de la paille conventionnelle, donc il y a un peu de fongicide, tout ça, donc ça aide un peu. Bon, on n'en est pas très fiers non plus, voilà. On est obligé d'utiliser de la paille conventionnelle, mais de toute façon, il n'y a aucun bio. Déjà, chez nous, il n'y a pas beaucoup de bio, alors en plus, il n'y en a aucun qui nous filera autant de paille pour faire ce système-là. Quoi. Donc voilà, on en est là. Mais c'est vrai que nous, pour démarrer, voilà, c'est un système vraiment pas mal.
Quel est votre type de sol? Est-ce que vous avez des problèmes pour décompacter?
En fait, non. On a des très très bons sols, beaucoup de limon, pas mal d'argile. Dès qu'on met un couvert dedans, n'importe lequel, on voit tout de suite que ça gonfle. Enfin bon, on a vraiment des très bons sols, donc nous on n'a pas de soucis. Je sais que par exemple les sols argileux, a priori de ce que j'ai compris, j'ai jamais essayé, mais il faut mettre beaucoup de systèmes racinaires pour réussir à les décompacter. Quoi. Nous, ça va quand même très vite. Quoi. En un an, avec deux pouces de couvert, on a vraiment réussi à décompacter un sol qui était un peu pris en masse. Ça travaille très très bien quoi. Bon, mais tout le monde n'a pas des sols comme les nôtres, donc voilà. Il peut y avoir des situations où c'est un peu plus compliqué quoi.
Je voulais juste rajouter un petit commentaire parce qu'on parle beaucoup d'importation de paillage, de foin, de BRF, d'autres endroits. Et je voulais encourager ceux parmi vous qui n'ont pas lu le travail de John Jevons, J-E-A-V-O-N-S. Lui, il s'intéresse à comment construire un système maraîcher qui tend vers l'autofertilité et puis avoir besoin de, quelqu'un disait, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc vraiment avoir ce qu'il faut au bon endroit. Et en fait, au fil des années, il s'est rendu compte que l'idéal pour être en autosuffisance et avoir assez de carbone et autres éléments pour nourrir son sol, c'est d'avoir sur sa parcelle 60% de la surface au cours du temps qui est dédiée entièrement à produire de la biomasse pour nourrir le sol. Et les 40% qui restent, c'est les surfaces qu'on utilise pour la production maraîchère qui va servir à nourrir les hommes. Donc, quelque chose à lire, quelque chose à méditer, à étudier pour se renseigner sur des systèmes où on peut essayer d'inclure sur place des productions de céréales, des productions de légumes comme les cardons par exemple qui sont très utilisés dans les jardins bio-intensifs bio en Californie. Le cardon, ça repousse tout seul tous les ans, ça vous fait des tonnes de biomasse, c'est pas difficile à faire pousser, surtout ici dans les terres du Gers. Après ça, vous sans arracher les racines, vous fauchez ça et vous avez des grandes tiges de matière de biomasse qui se décomposent sur le sol, quoi. Donc voilà, une réflexion à mûrir et à développer au fur et à mesure qu'on veut affiner sa démarche d'autosuffisance vers l'autofertilité, justement.
Par rapport à la réduction de carbone, je me suis beaucoup intéressé et j'ai vu par exemple que dans les pays tropicaux où il y avait énormément de lessivage, comme en Amazonie, il y avait le système de la terra preta et essentiellement des recherches qui ont été effectuées par l'université allemande de Bayreuth. Par contre, près de nous, j'ai jamais vu personne parler de ça ou faire des expériences.
Il y a ici, dans l'Assemblée, quelqu'un qui a expérimenté pas mal avec ça et qui va être présente sur l'atelier sur les inoculats. L'atelier sur les inoculats où on va parler des thés de compost, des purins. Il y aura également des petites apartés et des possibilités d'échanger sur la terra preta, sur le biochar. Il y a plusieurs personnes parmi les animateurs et les bénévoles. On a eu déjà de bonnes discussions hier soir à ce sujet. Vos questions seront adressées en tout cas. Voilà.
C'est juste pour revenir vite fait sur la problématique du carbone, c'est-à-dire que nous, dans notre démarche, bon, là, ça fait 3-4 ans qu'on essaie de se professionnaliser, donc on a démarré, maintenant on est professionnel, et au fur et à mesure de notre démarche vers le non-travail du sol, c'est vraiment quelque chose qui nous a paru complètement pertinent, c'est vraiment la problématique du carbone, c'est-à-dire que quand on allait en formation avec Conrad Schreiber, il nous expliquait en semi-direct qu'il y a des très beaux cycles du carbone, on produit des systèmes racinaires, de la paille et tout ça, tout ça. Et nous, vraiment, en maraîchage, je pense que le gros souci, c'est le carbone. Et que le jour où on aura réussi à résoudre ça ou qu'on arrivera à limiter la problématique, c'est là qu'on commencera à avancer, quoi, parce que c'est vraiment notre gros souci. Et c'est une clé pour tout, c'est une clé pour le désherbage, c'est une clé pour l'occupation du sol, pour l'occupation du sous-sol, pour le cycle de la fertilité, et donc tout va se jouer là-dessus. Et le problème, c'est comme on a des plantes amputées qu'on laisse pas pousser, qu'on laisse pas arriver à maturité, donc on les laisse pas produire de carbone. On a vraiment un cycle du carbone qui est amputé et ça va être toujours notre gros problème et c'est ça qu'il faudra réussir à résoudre. Et après, on pourra très facilement copier ce qui se fait en céréales ou tout ce qui a déjà été fait en semi-direct, quoi. Mais on a un problème autour du carbone et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut résoudre. D'où les pistes de peut-être laisser un peu d'adventice pousser, de faire plus de couverts, de mettre des fois des paillages, etc., etc. Mais bon, on a vu quand même aujourd'hui dans les interventions que quand même tous les systèmes étaient quand même relativement consommateurs de carbone, quoi.
Merci beaucoup, François.